Bonjour à tous, je suis Patrick Sauce, éditorialiste international à BFM TV. La Russie a subi vendredi dernier la pire attaque terroriste depuis une vingtaine d'années. Et si, dans le reste du monde, l'attention s'est vite focalisée sur la réponse de Vladimir Poutine et les conséquences sur la guerre en Ukraine, eh bien ce serait assez vite oublier les interrogations, les doutes, les peurs de la population russe. Bienvenue dans l'œil de Moscou. Et comme chaque semaine, nous sommes en ligne avec le correspondant de BFM TV à Moscou, Paul Gogo. Salut Paul.
Salut Patrick.
Alors, on a vu, pour le coup, il n'y a pas eu vraiment de tabou sur les réactions dans le monde. Il y avait parfois une petite addition sur le soutien au gouvernement russe. Ce n'est pas étonnant de la part de l'Inde, de la Chine, notamment, ou de certains pays. Mais de toute façon, les pays occidentaux comme les autres ont tout de suite fait preuve de leur empathie et de leur tristesse face au drame russe avec, en plus, quelque chose de particulier à la France et cette expression qui est assez rapidement venue, celle d'un Bataclan à la russe. Qu'est-ce que tu en penses de cette comparaison ?
Oui, évidemment les Russes y ont pensé et je l'ai entendu aussi en Russie. Mais ce que je pense que le premier réflexe des Russes, et en tout cas ça a été le mien aussi, et je l'ai aussi entendu de la part des Russes, ça a été de penser à la Dubrovka, ce théâtre qui avait fait l'objet d'une prise d'otage. Il me semble que c'était en 2003, si je ne me trompe pas. Et la prise d'otage avait duré 3 jours. Et pour tout dire, quand j'ai appris l'information de cette attaque qui était en cours, j'ai commandé un taxi au plus vite pour essayer de me rendre sur les lieux. Et pendant tout le trajet, je me suis dit, on va y passer 3 jours, ça va être une prise d'otage. Ça va être, on va assister à un cauchemar pendant plusieurs jours, un cauchemar qui se finira forcément mal parce que déjà à l'époque, ça s'était mal fini à l'époque parce que les pris en otage, les otages avaient été tué avec les terroristes finalement parce que les autorités russes n'étaient pas allées de façon très subtile pour supprimer ces terroristes. Donc je m'attendais à ça. Je pense que quand les Russes, c'était la Dubrovka, donc c'était pendant un spectacle aussi, c'était dans une salle de théâtre. Je pense que les Russes, eux, ont pensé à cet événement-là, en gardant en tête le fait que ça nous était arrivé en France aussi. Donc je pense que c'est ce qui a traversé les esprits. Et je précise aussi par rapport à ce que tu disais sur les réactions étrangères que c'est aussi, tu sais, depuis le début de la guerre, les étrangers cherchent sans forcément trouver des façons, des moyens de parler aux Russes sans parler au Kremlin, de contourner en gros le Kremlin. Et la réaction des Français, notamment, assez forte parce qu'une réaction de soutien aux Russes. Et c'est vrai qu'il y avait ce côté Bataclan derrière, voilà, nous aussi on l'a vécu, on vous comprend. L'ambassadeur, il s'est rendu au ministère des Affaires étrangères pour aller signer un livre d'or pour aller y mettre un message de soutien. Je pense que les Russes comprennent qu'on comprend leur douleur, en gros.
Oui, et je crois que c'est le plus important. Moi, je le dis vraiment aux auditeurs, le parti pris sur cet épisode, le mien en tout cas, c'est de ne pas revenir sur l'enquête, sur les conséquences au sommet de l'État. C'est vraiment parce que, dans l'œil de Moscou, c'est le sujet, de comprendre un peu plus les Russes. Oui, il y a eu cette peur d'un cauchemar sur 3 jours. Mais la Russie, c'est aussi un État dans lequel, tous les coups tordus sont permis et du coup la paranoïa est permanente. Est-ce que tu peux m'expliquer dans quel contexte, je dirais, psychologique les Russes étaient les derniers jours avant ce fameux et tragique attentat ?
Oui, il faut bien comprendre qu'on était dans une situation très étrange depuis quelques jours, en fait. C'est-à-dire que, mine de rien, on l'a déjà oublié, mais la présidentielle russe a eu lieu une semaine avant. Et avant cette présidentielle, donc il y a 2 semaines, on le sait maintenant, les États-Unis avaient alerté les Russes d'un risque d'attentat. Mais ce qu'on oublie parfois de rappeler, c'est qu'ils les avaient alertés publiquement. Et l'alerte avait été reprise par les Anglais, notamment par l'ambassade de France à Moscou aussi. Et ce qui veut dire que le week-end qui a précédé la présidentielle, Plein de Russes ont décidé de ne pas sortir, en tout cas de ne pas aller dans des lieux de rassemblement de masse, comme on appelle ça ici, de ne pas se mettre dans des foules, d'éviter de prendre le métro. Je connais des Russes qui ont pris ces décisions-là ce week-end, parce que vous avez les Américains d'un côté qui vous expliquent qu'il y a un risque d'attentat, sans qu'il y ait de preuves. Comment dire, vous ne pouvez pas savoir à quel point le risque est réel ou non. De l'autre côté, vous avez Vladimir Poutine qui répond aux Américains. C'est une provocation, une tentative de déstabilisation à la veille de la présidentielle. Les Russes ne savent pas quoi penser. Et donc voilà, on était resté un peu là-dessus. La présidentielle a eu lieu. Et puis au lendemain de la présidentielle, finalement, vous avez cet attentat. Et comme on se rappelle que Vladimir Poutine n'avait pas voulu réagir particulièrement au message de prévention des Américains, et qu'on se rappelle aussi de cet événement qui est très étrange dans l'esprit des Russes de 1999, l'arrivée de Poutine au pouvoir, et c'est cette série d'attentats qui touchent des immeubles qui explosent un peu partout dans le pays, mais surtout à Moscou, qui font des dizaines et des dizaines de morts. Et en fait, les Russes, ils ont gardé cet événement en tête parce que il y a un mot de la fin qu'on n'a jamais eu sur cette histoire d'attentat de 99, c'est que le dernier attentat, il avait été avorté parce que un habitant avait vu des hommes en train de déposer de l'explosif dans le sous-sol d'un immeuble, et ces hommes avaient été arrêtés par la police, police qui avait découvert que, en fait, c'était déjà des agents du FSB. Et donc, depuis cette histoire, alors les Russes savent déjà de quoi sont capables leurs services de sécurité et leur police politique depuis toujours.
Oui, avec juste, pardon Paul, mais rappelle-moi les conséquences immédiates de ces attentats de 1999, et parce qu'on sait que la Russie, notamment celle de Poutine, aime reprendre les histoires et des schémas qui ont fonctionné, les remettre même 25 ans après. Que s'est-il passé juste après ces attentats en 1999?
Oui, bah, et ensuite, c'était, voilà, on resserre les boulons, plus de répression, on retourne en Tchétchénie, et on amplifie en gros la violence en Tchétchénie, et on fait la guerre à la Tchétchénie. Et en fait, c'est la difficulté dans cette situation, les Russes en sont conscients. C'est que ce soit du fait du Kremlin ou des services ou non, quand un attentat survient, la conséquence d'un attentat, c'est qu'il y a plus de. Enfin, vous avez une sensation de terreur qu'on ressent tous au moment d'attentat. Et cette terreur rend bah, déjà limite la réflexion et limite un peu le doute, c'est-à-dire que vous doutez, mais vous allez adhérer plus facilement au message officiel qu'on va vous donner. Et Vladimir Poutine, lui, il sait jouer sur la terreur. Alors, si on part du principe que 99, c'est un attentat qui a été fait par les services de sécurité, voilà, pour un peu, en gros, augmenter le contrôle de la population à la veille de l'élection de Vladimir Poutine. En gros, on dit en Russie que Poutine, il a été élu grâce à ces attentats, en s'appuyant sur cette terreur. Donc ça, c'est une chose. Mais même quand c'est pas de son fait, en fait, les autorités russes, elles savent s'appuyer là-dessus. Et là, bah, on le voit, l'exemple est très concret, puisque là, maintenant, on accuse l'Ukraine et il y a visiblement un développement qui va pousser à plus de répression dans le pays et à plus de guerres en Ukraine. Donc les Russes l'avaient vu venir et l'attendaient en fait avant même cet attentat, parce qu'en fait ce qui se passe maintenant, c'est ce qui devait arriver à l'origine à la suite de l'élection présidentielle. Donc c'est très compliqué d'être russe quelque part quand ce genre d'événements interviennent, parce que on n'y comprend rien en fait. C'est ça le bout du truc.
Ce que les gens quand même ont ressenti, c'est que pour le coup, alors lavage de cerveau ou pas, propagande ou pas, c'est qu'il y avait tout de même un besoin d'unité dans le pays. Ça a été martelé par Vladimir Poutine. Je sais que tu es retourné devant les lieux de l'attentat au Crocus, au centre commercial. Qu'est-ce que tu as entendu? Est-ce que tu as senti qu'il y avait cet élément d'unité nationale? Ah, rappelons-le, la nationalité ou l'origine des assaillants a été très vite mise en avant, celle de Tadjik. Qu'est-ce que tu as ressenti sur place en entendant les moscovites?
Alors déjà, la première chose, tu sais que quand l'attentat du Bataclan a eu lieu, moi j'étais déjà correspondant à l'étranger, donc je l'ai vécu à distance. J'ai évidemment vu, ressenti l'émotion et la douleur des Français, des Parisiens, Et là, j'ai vraiment la sensation que c'est ce qu'on ressent, parce que j'y suis retourné cette semaine, depuis plusieurs fois depuis le jour de l'attentat, et l'émotion, elle est toujours aussi forte. Vous pouvez y aller à n'importe quel moment, il y a toujours des Russes, les larmes aux yeux, des religieux sur place. Enfin, c'est compliqué parce que moi-même, je baigne dans l'actualité liée à la guerre en Ukraine. Voilà, je me suis concentré sur la présidentielle ces derniers temps. Et c'est très dur d'en arriver à une autre situation comme ça et d'essayer de comprendre la douleur que ça représente pour eux, même si évidemment c'est terrible et j'ai été le premier choqué de ce que je voyais le soir même. Mais voilà, je voulais juste préciser qu'il y a une douleur qui est vraiment très forte et on sent que ça touche toute la nation et pas seulement à Moscou, ça concerne vraiment l'ensemble du pays. Ensuite, il y a ces Tadjiks. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux discours, mais c'est qu'on retrouve, je pense, dans tous les pays, même en France, au lendemain d'attentats, qui veut qu'on s'en prenne aux étrangers, finalement. Là, ce sont des Tadjiks, et il y a plein de discours politiques aussi, mais chez les Russes, qui consistent à dire il faut qu'on contrôle plus les migrants d'Asie centrale, qui sont les migrants principaux en Russie, il faut qu'on les surveille mieux, voire il faut qu'on leur ferme la porte. Alors tous ces gens-là, dans l'émotion, oublient que si Moscou fonctionne comme elle fonctionne, c'est justement parce que ces migrants sont présents à Moscou, hein. Les Tadjiks, ils sont chauffeurs de taxi, ils sont livreurs de nourriture, ce sont ceux qui mettent les pavés dans les rues de Moscou. Enfin, sans eux, il n'y a plus de Moscou. C'est eux qui enlèvent la neige sur les toits dans les rues l'hiver. Voilà. Mais en tout cas, il y a cette volonté de s'en prendre aux migrants d'Asie centrale. D'ailleurs, l'ambassade du Tadjikistan à Moscou conseille à ses ressortissants de ne plus sortir chez eux parce que la vengeance, elle existe déjà. Alors, il y a une xénophobie incroyable au sein de la population qui est d'ordinaire totalement déjà xénophobe envers ce genre de population, mais qui l'est encore plus maintenant. Même chose pour la police. Alors, j'y ai pensé cette semaine en écrivant un article sur justement cette relation des Russes avec les migrants d'Asie centrale. Et en fait, c'est vrai qu'ici, les contrôles au faciès, c'est la règle. C'est-à-dire que dès que vous rentrez dans le métro à Moscou, vous voyez quelqu'un qui a un visage typé Asie centrale qui est systématiquement en train de se faire contrôler par la police.
Oui.
Moi, ça ne m'arrive jamais, hein.
Oui, le délit de sale gueule et le délit de faciès, ça existe aussi et beaucoup en Russie, qui est quand même, rappelons-le, encore une fois, le plus grand pays du monde, un nombre incalculable de frontières avec des pays voisins, et qui est le pays multiethnique. Alors, il faut peut-être retrouver les États-Unis, mais qui le sont pour une autre raison. C'est un pays d'immigration, les États-Unis. Là, les Russes, les Soviétiques avant, ils ont toujours été là.
C'est ça. Et là, le discours maintenant qui apparaît, c'est celui qui consiste à dire. Et je l'ai entendu hein, devant le Crocus, la salle de concert, comme d'une seule voix. C'est très étrange parce que des fois, j'ai l'impression d'entendre la propagande russe et je pense que ça vient de ce que les gens entendent à la télé parce qu'ils le disent exactement avec les mêmes mots de la même façon. Nous sommes une nation unie, personne ne nous divisera. Mais sans contextualiser, tu sais pas vraiment de quoi ils parlent. Parce qu'en fait, bon, les Tadjiks, ils ont leur pays, ils font pas partie de la Russie normalement, mais en gros, c'est nous les Soviétiques presque, on est nation unie et voilà, il faut pas qu'on nous divise, il faut pas que des forces extérieures parviennent à nous diviser, ce qui est aussi le discours de Vladimir Poutine. Et donc, ça correspond à une crainte qui existe avant tout, je pense, au sein du pouvoir russe, mais aussi chez les Russes, d'un risque de division du pays, d'explosion des tensions ethniques chez certaines minorités, notamment dans le Caucase, parce que évidemment tout le monde a les guerres de Tchétchénie en tête. Et donc c'est aussi une des premières choses qu'on craint quand un attentat de cette sorte arrive à Moscou. Et donc vous avez ces deux discours, vous avez ceux qui craignent ça, et puis vous avez des gens très radicaux. J'en ai rencontré un hier qui, eux, vous disent, voilà, il faut qu'on se débarrasse des étrangers, il faut qu'on leur bloque l'accès à la Russie, ils sont manipulés de l'étranger pour nous détruire de l'intérieur, voilà, ils représentent un danger pour nous.
Au-delà du discours politique de Poutine sur l'unité nationale, comment il compte s'y prendre justement, très concrètement, au-delà de voilà de la xénophobie des gens dans la rue, comment ça pourrait se passer finalement l'unité, parce qu'on peut faire rentrer dans le rang à coups de botte si on veut, mais encore une fois, c'est difficile en 2024.
Il y a deux techniques. Il y a celle qui est visible, c'est-à-dire que là, le président russe, il a fait des remarques hein, de ce type-là, en disant que, en gros, le terrorisme n'avait pas de nationalité, qu'il fallait rester soudé, et en gros, une sorte d'appel à éviter tout acte de xénophobie. Donc ça, c'est pour la partie visible. Et puis il y a des héros aussi qui sont mis en avant, tu sais, comme après chaque attentat. Et parmi ces héros, bah, tu en as qui sont de confession musulmane et les chaînes d'État les mettent bien en avant aussi pour rappeler à peu près le même message, quoi, que le terrorisme n'a pas de nationalité ou de religion et que, en fait, il faut que le pays reste uni. Donc tu as ça d'un côté. Et puis en coulisses, ce qui se passe, c'est une vraie répression en ce moment. Si tu es Tadjik ou même d'Asie centrale ou certainement du Caucase d'ailleurs, tu vas prendre le métro, tu te fais arrêter. Moi, il y a 2 jours, j'ai vu un homme est entouré par 4 policiers avec les mitraillettes à l'épaule. Tu voyais qu'il était originaire d'Asie centrale. J'imagine qu'il n'avait rien fait de particulier, mais il allait se faire emmener au poste pour contrôle. Et il y a plein, plein, plein de témoignages de gens du Caucase ou d'Asie centrale qui se font en ce moment arrêter, qui disparaissent. Leurs proches n'ont aucune idée d'où ils sont. Et voilà, ils seront certainement, pour certains, renvoyés dans leur pays, d'autres très surveillés. Mais il y a des règles. Bah, d'ailleurs, la police aussi a créé un service, est en train de créer un service qui sera destiné à ça, à faire le tour des dortoirs, des chantiers, pour aller contrôler régulièrement les papiers de ces migrants. Qu'on appelle, je précise, qu'on appelle des migrants, mais qui sont en fait des gens qui rentrent totalement légalement en Russie parce qu'il y a un accord, notamment entre le Tadjikistan et la Russie, qui leur permet de venir travailler avec des visas assez allégés.
Alors, pour finir cet épisode, on ne peut pas ne pas parler de l'état dans lequel se trouve la Russie et dans lequel la Russie se disait elle-même être vendredi matin, quelques heures avant l'attentat. On reprend 2 secondes, Dmitri Peskov qui dit que oui, de facto, nous sommes en état de guerre. On sent qu'il a fallu quelques heures, voire le week-end, pour reprendre, peut-être mettre quelques coups de gomme sur le narratif et le remettre sur les rails. Cet état de guerre, après l'attentat, après justement les espèces de connexions qui ont dû être faites parfois au forceps entre l'État islamique et l'Ukraine, on en est où?
À mon avis, cet état de guerre, il est en train de se préparer en se basant sur l'attentat. Et c'est ce qu'on voit, cette espèce d'écriture d'un narratif lié à cet attentat. Vladimir Poutine, avant cet attentat, son objectif, c'était de s'appuyer sur l'élection présidentielle. Ses résultats, que ce soit son résultat ou le taux de participation, pour expliquer qu'il est légitime, qu'il est soutenu par sa population et que donc il peut y aller un peu plus fort sur la répression d'un côté. Alors ce que j'appelle la répression, c'est la répression, mais c'est surtout le travail un travail pour essayer de convaincre la population qu'il faut participer volontairement à l'effort de guerre sans qu'on ait à aller les chercher. Donc c'est vraiment son travail principal depuis quelques mois. Et puis donc y aller éventuellement plus fort sur ce qui se passe en Ukraine. Et l'attentat, évidemment, enfin, je vais être cynique un peu comme Vladimir Poutine sait l'être, mais pour l'instant, c'est presque tout bénéfice pour le Kremlin. Alors, ça l'est pas totalement parce que beaucoup de questions se posent sur l'attitude des autorités russes ce soir-là, leur temps d'intervention, le fait qu'ils ne soient pas parvenus à éviter cet attentat, le fait qu'on se demande s'ils ont écouté les Américains ou non. Mais pour le reste, Vladimir Poutine, comme on le disait tout à l'heure, il sait très bien gérer et utiliser à ses fins, à son avantage.
Il est dans son élément, finalement.
Voilà, c'est très bien dit comme ça. Il est dans son élément, il est totalement dans son élément. Et donc, on le voit dans le narratif qui est en train d'être construit. En gros, c'était des migrants. Bon, ça, soit, c'est pas grave, on est un pays uni. Par contre, il faut quand même qu'on fasse attention aux migrants parce que ils peuvent facilement se faire manipuler par des forces étrangères. Alors, certains disent les Américains, d'autres disent l'État islamique financé par les Américains. Enfin, t'as plein d'histoires et de complots qui sortent de tous les côtés. Donc, le lien se fait
Oui, les
automatiquement pour ça.
complotistes sont aussi dans leur élément, là, hein, avec
Oui,
ça.
ça c'est bon, ça c'est une constante, j'imagine, dans tous les attentats et les événements de ce type dans le monde entier. Mais effectivement, là, il y a de quoi faire pour eux. Et d'autant plus que voilà, le Kremlin est en train de créer ce narratif très bizarre de nos yeux, vu de nos yeux, qui, pour l'instant, je ne suis pas sûr qu'il parle beaucoup d'ailleurs aux Russes, ce narratif, parce que les Russes ont un peu de mal à comprendre ce que les Ukrainiens viennent faire dans un attentat de ce type-là. Tout le monde comprend bien que ce qui s'est passé n'a rien à voir avec les techniques utilisées par l'armée ukrainienne depuis 2 ans pour répondre à l'attaque russe. Donc voilà, et là, ce que tout le monde comprend, c'est que le président, il va s'appuyer sur ce qui s'est passé, bah, comme on en parlait tout à l'heure en 1999, il va s'appuyer sur un attentat pour construire un système toujours plus intrusif dans la vie des Russes, toujours plus répressif. Et surtout, bah, voilà, on s'attend à ce que ça ait de grosses conséquences sur l'Ukraine, qui visiblement va devoir payer pour ce que l'État islamique a fait. Mais je pense que tout ça prend du temps. Donc je pense que là, il faudra encore quelques jours pour que le Kremlin arrive à construire son narratif. Que ça prenne un peu dans l'esprit des Russes, et peut-être que d'ici 2 ou 3 semaines, quand tout le monde sera bien mûr, alors des décisions vont apparaître et des actions vont apparaître en Ukraine éventuellement.
Comme l'impression que jamais rien ne change, tout est toujours calculé
Oui.
dans cette Russie. Bon, peut-être pour juste terminer sur un clin d'œil un peu plus léger, nous, on se rapproche de Pâques en France. Qu'est-ce que vous vous offrez pour Pâques en Russie?
Mais c'est plus la période des blinis, des crêpes. Et en fait, pour tout te dire, le dimanche de l'élection présidentielle, moi j'étais un peu dégoûté, bah, de devoir travailler sur cette élection présidentielle, même si je suis content d'avoir pu informer tout le monde sur
Je
BFM
n'en doute
ce
pas.
soir-là. Mais c'était aussi ce qu'on appelle ici la Maslenitsa. Et la Maslenitsa, c'est en gros une fête durant laquelle on fête le retour du printemps. Et en gros, dans les villages autour de Moscou, un peu partout dans le pays, il y avait des grosses fêtes. On faisait des blinis, des crêpes, des barbecues. Il y a les cœurs de grand-mère, comme on les aime. Enfin, l'espèce de Russie éternelle, un peu marrante et mignonne, que j'aime bien voir au moins une fois par an. C'est un peu leur carnaval, parce qu'à la fin, on brûle le bonhomme. On a encore un peu les pieds dans la neige, donc c'est un moment assez agréable. Mais c'est aussi un moment de tension parfois, le Pâques orthodoxe. Et les églises sont, enfin, les autorités mettent des policiers devant chaque église le soir de Pâques. Enfin, c'est, ouais.
Oui, et malheureusement, cette menace, elle est aussi présente en France pour Pâques, et notamment au niveau des églises et des lieux de culte. En tout cas, bon, merci pour cette carte postale sur la fin, et surtout, merci Paul de nous avoir expliqué, au-delà de ce qui peut se passer dans la grande voie du Kremlin, le sentiment des Russes. On a bien senti qu'au fond du fond, en fait, les Russes avaient été vraiment très, très touchés, à la fois dans leur chair, par cet attentat, mais aussi, il faut le dire, au-delà des politiques, par les réactions notamment de la population française qui est passée par là. Hein.
Exactement.
Merci encore, Paul, et à la semaine prochaine.
Merci à toi, à bientôt.
Et d'ici là, vous pouvez retrouver tous les épisodes de notre podcast original dans l'œil de Moscou sur bfmtv.com, BFM Radio et sur toutes les plateformes de streaming. À très bientôt.